Alors, je vous propose qu'on échange sur ces différents points avec la salle et puis avec les personnes que j'invite à venir à la table ronde, hein, c'est-à-dire Monsieur Gadra, vice-président du TGI, Maître Vaillant, avocate, Madame Rome n'est pas là, mais donc peut-être Pierre, tu peux rester là puisque si on propose à nos aux membres de la table ronde de venir s'installer en face, s'il y a...
Non, mais je descends.
Moi, je pense que vous pouvez rester. Si on peut faciliter l'installation de Monsieur Gadra et de Maître Vaillant de l'autre côté, comme ça permet d'échanger. Alors, vous avez compris que ce matin, je suis à la fois modérateur et accélérateur. Donc, je crois qu'en psychiatrie, ça s'appelle une double contrainte. Je vous prie de m'en excuser. Donc, Monsieur le Président, et en nous excusant auprès de nos invités, est-ce qu'on peut nous donner une demi 15 à 20 minutes? Pas plus, bon, 20 minutes. D'accord. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a peut-être il y a un micro disponible. Bien, donc peut-être on va vous demander, en vous remerciant d'être parmi nous de nouveau, hein, puisque bon, nous avions eu le plaisir de vous accueillir l'année dernière dans ce contexte d'urgence, donc maintenant avec un peu plus de recul. Est-ce qu'on peut vous demander l'un et l'autre de réagir par rapport à la thématique générale de la loi et puis aussi par rapport aux interventions des intervenants précédents. Merci.
Oui, ben, merci, merci
Donc, Monsieur Gadra.
une nouvelle fois de votre invitation. Pardon. Tout d'abord, donc, je suis effectivement toujours GLD à Bordeaux, mais je parlerai également de ma position nouvelle, qui est celle de secrétaire national du syndicat de la magistrature, qui travaille depuis maintenant, depuis que cette loi a été promulguée, et qui réfléchit, qui a mis en place un groupe de réflexion sur ce sujet, et qui organise, d'ailleurs, je pense que vous avez eu l'information, un colloque sur cette question la semaine prochaine, auquel vous êtes bien évidemment tous cordialement invités, qui a pour objet d'essayer de dresser un bilan critique de cette loi et surtout d'avancer sur des propositions. Alors, comme je suis un très mauvais élève, je n'ai pas consulté le site de l'ADESME avant de venir. Et c'est bien dommage parce que je découvre aujourd'hui les propositions que vous faites. Et donc, je me permettrai, comme je pense que le temps nous est compté, peut-être de faire quelques observations rapides au vu au regard de ce que j'ai entendu. Alors, sinon, bon, j'aurais pu aussi assez rapidement me contenter de dire que j'étais en très très grande partie d'accord avec tout ce qu'a pu dire Monsieur Delarue sur tant sur le constat que sur les pistes sur lesquelles il fallait travailler. Je crois que deux petites observations sur ce qui a pu sur ce qui s'est passé cette année et sur cette année d'application. D'une part, quelque chose qui peut apparaître positif, qui est la décision du Conseil constitutionnel de 2012, qui, même si, effectivement, comme l'a dit M. Delarue, c'est ce que nous regrettons nous aussi, ne conteste pas clairement, d'ailleurs, ne conteste pas réellement le régime dérogatoire qui est mis en place, qui a été mis en place concernant certaines personnes, puisqu'en fait, ce qui est remis en cause par le Conseil constitutionnel, c'est les conditions d'alimentation, on va dire, de ce régime dérogatoire. Alors que nous, ce que nous contestons depuis le début, c'est le régime en lui-même, pour les raisons qui ont été évoquées, c'est-à-dire principe d'inégalité et de stigmatisation de certaines personnes. Mais je pense que ça donne une opportunité dans laquelle vous vous engouffrez, dans laquelle nous aussi, on va tenter de s'engouffrer, qui est que cette loi va devoir être révisée. Et que c'est l'occasion, au-delà des révisions nécessaires proposées qui résultent de la décision du Conseil constitutionnel, c'est l'occasion d'essayer de faire modifier certaines dispositions qui posent problème. Alors, sur l'application en elle-même du contrôle, malheureusement, ce qu'on constate, c'est un peu ce que j'avais pu dire déjà l'année dernière et ce que l'on craignait. C'est la question de l'effectivité des droits du malade, puisque ce contrôle qui a été mis en place a été dit maintes et maintes fois, sans moyens supplémentaires, de façon un peu chaotique au plein milieu de l'été, a abouti aujourd'hui à ce que... Alors les chiffres, ce qui m'ennuie un peu, mais je pense que c'est lié au fait que vous avez des chiffres un peu plus partiels que ceux du ministère, sont un peu moins positifs que les vôtres, ceux du ministère, puisque concernant l'organisation des audiences, il semblerait qu'on soit plutôt, malheureusement, uniquement sur 30% d'audiences qui se tiennent au siège des hôpitaux, et encore 70%, ce qui est encore beaucoup, au TGI. C'est beaucoup, pourquoi ? Parce que ça aboutit à ce que l'on craignait, c'est-à-dire soit ce qu'a dénoncé M. Delarue, des conditions d'indignité sur lesquelles je ne reviendrai pas, sur l'organisation de ces audiences et le non-respect des malades, mais aussi, souvent, parce que certains collègues prennent conscience de cela ou parce qu'il y a une réaction des établissements hospitaliers ou des psychiatres qui ne veulent pas et qui ne souhaitent pas que les malades soient confrontés à cela, ce qu'on entend évidemment, mais aussi pour des raisons gestionnaires et logistiques, on a abouti à ce qui se passe dans certaines juridictions, c'est-à-dire qu'on a un droit virtuel, puisque dans certaines juridictions de la couronne parisienne, on a eu des taux de non-comparution qui frôlaient les 100% parfois certaines audiences, c'est-à-dire qu'en pratique, le juge exerce un contrôle sur dossier. Le juge et l'avocat d'ailleurs, puisque dans ces cas-là, très souvent, le patient, le malade, n'aura pas plus rencontré son avocat qu'il n'aura rencontré le juge. Alors que quand même, l'intérêt de cette audience qui avait été prévue, c'est surtout la possibilité pour le malade de pouvoir rencontrer le juge et de pouvoir lui faire part, lui faire part de ses observations sur les motifs de son hospitalisation, sur le fait qu'il accepte ou pas cette hospitalisation, mais aussi sur les conditions, sur la façon dont il vit cette hospitalisation. Et ça me paraît aussi important, puisque le juge a aussi une mission de s'assurer que l'ensemble des droits de la personne sont respectés. Voilà, donc malheureusement, j'ai un regard assez critique sur ce qui se passe et inquiet. Alors, je viendrai sur un point qui me paraît essentiel, parce que je ne vais pas essayer de ne pas parler très longtemps et pouvoir être dans l'interactivité. Par rapport aux propositions que vous avez abordées, moi qui m'inquiète un petit peu pour tout dire, c'est d'ailleurs deux propositions qui sont un peu en lien sur la question de la publicité de l'audience et sur la question du juge compétent. Alors, je partage ce que disait M. Delarue tout à l'heure. Évidemment, moi aussi, je souhaiterais que le juge des libertés et de la détention devienne le juge des libertés, ce qui me paraîtrait une évolution significative. En ce qui concerne la publicité de l'audience, je crois qu'il faut être vigilant, il faut être prudent, parce que la publicité de l'audience, si elle existe, c'est une garantie en faveur du malade. La publicité, elle fait partie des conditions d'un procès équitable. Le fait que l'audience puisse avoir lieu publiquement, c'est une garantie. Alors, je vais peut-être vous faire bondir, mais parce que je vais dire que c'est une garantie contre l'arbitraire, mais c'est pour ça que ça a été fait, c'est pour ça que la publicité de l'audience existe, et qu'il existe, il y a déjà aujourd'hui dans la loi, la possibilité d'écarter cette publicité si l'ensemble des parties le demandent ou si le juge l'estime nécessaire pour des raisons de protection de l'intimité de la vie privée. Alors peut-être que l'évolution qu'on pourrait envisager, c'est ce que nous on propose au syndicat de la magistrature, c'est que effectivement, si la personne, puisqu'aujourd'hui les deux possibilités, ce sont que soit le juge peut décider lui de renoncer à la publicité, de dire que l'audience aura lieu en chambre du conseil, soit il est nécessaire que l'ensemble des parties le demandent. Moi, l'évolution qui me paraîtrait envisageable et souhaitable, c'est que dès lors que la personne concernée elle-même, assistée de son avocat évidemment, le sollicite, cette audience en chambre du Conseil soit de droit. C'est-à-dire que ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, alors, même si j'imagine que dans la plupart des cas, enfin, j'en sais rien, je ne veux pas me porter garant pour l'ensemble de mes collègues, mais j'imagine que si la personne et son avocat demandent que l'audience ait lieu en chambre du Conseil, je vois assez mal un juge s'y opposer, mais aujourd'hui, il peut. Si l'ensemble des parties ne le demandent pas, il pourrait dire que non, l'audience a lieu publiquement. Donc, moi, je pense qu'il est dangereux de vouloir instaurer le principe de la chambre du Conseil. Je crois que les dispositions telles qu'elles sont, sont plutôt bonnes. Alors, je sais que j'ai pas mal critiqué cette loi, mais cette disposition-là ne me paraît pas être une mauvaise disposition, sous réserve peut-être effectivement de cet aménagement. Et ça, je le mets en lien avec la question du juge compétent. Je n'ai rien contre le juge des tutelles. J'ai été juge des tutelles pendant très longtemps. Il a un grand avantage, le juge des tutelles, c'est qu'il a l'habitude de se déplacer. Ça ne le dérange pas de se déplacer. Je suis d'accord. Quoique, aujourd'hui, le juge des tutelles, malheureusement, il est confronté au même problème que l'ensemble des autres juges, qu'il est confronté à une loi de révision générale des mesures de tutelle tous les 5 ans, qu'il n'y arrive pas, et que malheureusement, ce qu'on voit aussi se développer, parce que j'ai le retour de mes collègues, notamment au bureau du syndicat, on a une collègue juge d'instance qui nous en parle régulièrement, c'est que ce qui se développe de plus en plus, c'est que les juges des tutelles, comme les autres, ont de grosses difficultés pour se déplacer, pour rencontrer les malades, les patients, enfin les personnes, les incapables concernant, les personnes protégées, pardon. Et que de plus en plus, là encore, on a un nombre croissant de certificats médicaux indiquant que la personne ne peut pas être entendue par le juge, puisque le juge va organiser ses audiences au tribunal par souci de rapidité, de gain de temps, etc. Donc c'est à mon avis une fausse bonne idée, au-delà du fait que symboliquement, moi, il me paraît important de ne pas oublier que, d'accord, on est sur une mesure de soins, d'accord, elle est prise essentiellement et souvent dans l'intérêt du malade, mais elle est aussi parfois et souvent prise dans un souci de protection de la société et qu'elle est privative de liberté. Et que donc c'est cette notion, c'est cette question de privation de liberté que le juge doit vérifier dans le cadre de son rôle constitutionnel, et que c'est bien le juge des libertés qui, à mon sens, est le plus à même de procéder à cette vérification. Alors c'est vrai qu'il a plusieurs casquettes, mais le juge des libertés, c'est pas parce que son appellation juge des libertés de la détention fait qu'on pense principalement à l'activité pénale du juge des libertés. Mais le juge des libertés, il n'a pas qu'une activité pénale. Et justement, étant à se développer de plus en plus dans d'autres domaines, il a d'abord une activité en matière de liberté de rétention des étrangers, ce qui est un domaine assez important le concernant. Et il intervient de plus en plus dans d'autres domaines où sont en cause les libertés publiques. Donc je crois que c'est un faux débat, ou c'est une fausse bonne idée de penser qu'il suffira de changer de juge pour que les choses s'arrangent. Ce que je crois, moi, profondément, c'est qu'il faut changer le texte qui concerne l'organisation des audiences et dire clairement ce que nous revendiquons. Et je suis content parce que je vois qu'on travaille depuis, nous, maintenant plusieurs mois, et plus particulièrement moi-même d'ailleurs, avec le syndicat des avocats de France, qu'on a eu plusieurs réunions, etc., et que dans leur rapport moral, à l'occasion de leur congrès la semaine dernière, ils ont enfin pris position dans le même sens que nous, c'est-à-dire pour dire que l'audience doit avoir lieu prioritairement au tribunal. On ne peut pas totalement mettre éluder...
À l'hôpital.
À l'hôpital, pardon, monsieur. Bon, enfin bon, tous ceux qui me connaissent savent que ce que j'en pense depuis très longtemps. Donc c'est un vrai lapsus, révélateur de quoi, je ne sais pas. Donc prioritairement à l'hôpital. On ne peut pas évacuer les deux autres alternatives parce qu'on aura, de toute façon, on n'y arrivera pas. Mais, je vais dire quelque chose qui ne doit pas sortir de cette salle, mais je connais mes collègues, ils sont comme moi. Si on prévoit que pour que l'audience ait lieu au tribunal, on doit motiver spécialement la décision. Bon, bah, peut-être qu'on, peut-être que finalement, on gagnera un petit peu en, sur ce terrain-là. Donc, je crois qu'il faut dire que l'audience a lieu sur l'emprise de l'hôpital. À titre exceptionnel et sous réserve d'une motivation spéciale, elle peut avoir lieu au tribunal et uniquement en cas de force majeure par visioconférence, parce que je crois que là, et je terminerai là-dessus, ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce que je craignais moi depuis le début, c'est que dans, pardon, je vais être un peu brutal, mais dans la guerre de tranchées qui existe parfois entre les JLD, et quand je parle de guerre de tranchées, je donne pas raison à mes collègues, hein, que les choses soient claires. Dans la guerre de tranchées qui existe parfois entre les JLD et l'hôpital, pour savoir, c'est pas moi qui vais me déplacer, c'est pas moi qui vais déplacer les gens, mais il y a eu au bout d'un moment, parce que les choses sont remontées, nous, au niveau de la hiérarchie judiciaire, et que la solution de consensus qui a été trouvée, c'est la mise en place de la visioconférence, qui n'est pas du tout satisfaisante en ce qui concerne les droits des malades, que les choses soient claires. Et je m'en suis encore expliqué il n'y a pas longtemps avec un psychiatre qui me disait « Oh, finalement, c'est pas si mal ». Je lui demandais est-ce que lui, il envisageait de faire l'entretien avec son patient par visioconférence. Il a bien convenu que non, il ne le ferait pas. Bah, que moi, si je voulais établir un lien avec la personne et qu'elle puisse me parler et que je puisse dialoguer avec elle, c'est sûrement pas à travers une caméra que je pourrais le faire. J'ai déjà du mal à le faire quand on est entre professionnels pour discuter sur des sujets ou autres. Alors avec un patient avec qui il est parfois compliqué de nouer le dialogue, c'est pas à travers la vidéoconférence que ça pourra se faire. Donc voilà nous ce qu'on proposera. Alors j'arrêterai là. Je pense que sur la juridictionnalisation complète, ça sera aussi parmi dans nos rangs. C'est compliqué, c'est pas facile à faire passer cette idée, mais j'y suis parfaitement favorable aussi. Je crois qu'il faudra arriver à ça, que d'ailleurs d'autres pays le font déjà, et que on devra arriver à cela. Voilà, je très rapidement très quelques observations au regard de ce qui s'est dit.
Merci beaucoup. Donc la parole est à la défense.
Toujours en dernier.
On donnera la parole à la salle aussi un petit peu.
Alors je vais essayer d'apporter quelques éléments qui n'ont pas déjà été débattus, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites ce matin que je partage effectivement. Hein. Je vous remercie encore de m'accueillir, parce qu'effectivement c'est agréable de venir débattre avec vous, et que je pense qu'une des avancées de cette loi, en tout cas sur le contrôle systématique, c'est qu'elle permet que ces deux mondes de la psychiatrie et de la justice se rencontrent et apprennent à se parler et apprennent à échanger et dépassent les antagonismes initiaux, qu'on puisse arriver à une certaine complémentarité. Alors, je reviens ici donc un an après le début de l'application de cette loi, donc on est au-delà aujourd'hui des problèmes matériels qui existent toujours d'ailleurs, mais on a dû faire avec. Un an après, on est dans la pratique et un petit peu une pratique qui est en train de se faire. Il y a eu un grand bouleversement, je pense, avec l'intrusion du juge effectivement à l'hôpital. Il y a eu des heurts, il y a eu des incompréhensions dans certaines juridictions. Il y a encore des espèces de réactions épidermiques, et je l'ai un petit peu vu dans certaines observations là, à des réactions du juge et à des décisions judiciaires qui sont en définition pas celles que le psychiatre souhaitait. Je pense que c'est un travail de longue haleine. Et qu'on est en train d'avancer, et que la jurisprudence est aussi en train de se faire et qu'elle est à parfaire comme la loi. Alors, moi, en ce qui me concerne la défense, ce qui est important pour moi, et je rejoins là totalement M. Delarue, c'est pas tellement le droit ou les droits, c'est l'effectivité des droits, et dans ma pratique quotidienne, c'est ça qui m'intéresse. Alors, pour moi, l'effectivité du droit, c'est d'abord effectivement une véritable audition par le juge, une véritable audition dans le cadre d'une audience. Hein, là-dessus, je rejoins M. Gadra. Je pense qu'il est nécessaire de maintenir le principe de l'audience avec l'aspect contradictoire, avec effectivement l'hôpital qui vient demander le maintien de la mesure ou la préfecture qui vient demander le maintien d'hospitalisation complète et qui le justifie au travers de sa requête, et le patient qui lui aura peut-être autre chose à dire, et le juge qui contrôlera cette demande de maintien, mais dans le cadre de ce débat contradictoire. Devant le juge des libertés, effectivement, je suis pour la suppression de la détention. Le juge des libertés, plutôt, effectivement, justement, parce qu'il a aussi cette pratique du contradictoire et parce que nous sommes d'abord dans une affaire d'atteinte à la liberté et donc il me paraît être le plus compétent. Alors, je rejoins ce qui a été dit sur le lieu de l'audience. Ce qu'on a constaté, c'est qu'effectivement, lorsque les audiences ont lieu au tribunal, il y a beaucoup plus de certificats disant que les personnes ne peuvent pas être auditionnables. Quand je dis beaucoup plus, on est arrivé à des situations de blocage, effectivement, devant certains tribunaux. Donc il y a un détournement d'abord de la loi et du certificat qui doit au départ permettre être limité uniquement aux personnes qui sont effectivement non auditionnables. Ça, c'est un des premiers effets. Et le deuxième effet, c'est qu'effectivement, il n'y a pas d'audition réelle par le juge. Et d'expérience, pour avoir un peu sillonné la France, lorsque l'audience se passe à l'hôpital, tout le monde convient que dans ce cas-là, il y a beaucoup plus de personnes qui peuvent rencontrer le juge et qui, sinon, ne le rencontreraient pas. Il y a les conditions d'accueil dans les tribunaux. Alors là, c'est extrêmement variable. Il y a des juridictions qui ont fait des efforts, donc on ne peut pas non plus caricaturer sur quelques exemples, qui ont fait des efforts pour que, lorsque l'audience a lieu au tribunal, les malades ne soient pas mélangés avec les escortes qui accompagnent des détenus, etc., pour que ce ne soit pas sur la place publique. Bon, mais il y a, c'est pas parfait, et c'est loin encore d'être parfait. Moi, pour ma part, j'ai pas du tout d'opposition à ce que l'audience se déroule à l'hôpital dans une salle dédiée, puisque à chaque fois que ça se passe à l'hôpital, il n'y a pas eu de problème sur la définition des salles dédiées et sur le fait que chacun ait sa place et que soit clairement identifié qu'il s'agit d'un lieu de justice au sein de l'hôpital. Le seul bémol que je mets, c'est un bémol matériel et pratique, c'est que pour que la défense soit la défense des droits, le contrôle soit effectif, il faut que la défense des droits soit effective et il faut donc que les avocats puissent assister leurs clients dans ce cadre-là aussi. Alors, quand on est à Paris, je vois effectivement pas la différence entre prendre le métro pour aller au palais de justice et prendre le métro pour aller à Sainte-Anne. Quand on est à Troyes et qu'il faut aller à Brienne-le-Château, c'est un autre débat. Ou quand on est à Montluçon, enfin voilà. C'est là où il y aura une vraie difficulté, sachant que nous, on a aussi nos problèmes matériels, c'est-à-dire qu'on est payé au lance-pierre avec une aide juridictionnelle à 96 euros. 96 euros pour prendre un ticket de métro, c'est pas un problème. 96 euros pour faire 50 km de voiture, c'est autre chose. Voilà. Donc, c'est une donnée. Il faut, à mon sens, si on va dans cette direction-là, qui me semble être la bonne, allier aussi, intégrer aussi cette question que la défense puisse être présente et se donner les moyens qu'elle soit présente, effectivement. Sur la publicité des débats, je voudrais quand même dire que concrètement, la question se pose, en tout cas à Paris, à chaque audience, le juge demande « est-ce que vous voulez que l'audience soit publique ou pas ?» Le principe, c'est la publicité, mais il est évident que d'abord, très souvent, il n'y a personne de l'hôpital et de la préfecture, et il n'y a que le patient qui est là. Il est évident que lorsqu'on dit « nous souhaitons que ça se passe en chambre du conseil », ça se passe en chambre du conseil. Et même matériellement, on est reçu dans le bureau du juge, et la question, c'est « est-ce qu'on ouvre la porte ou est-ce qu'on l'ouvre pas ?» C'est tout. Et j'étais à Châteauroux avant-hier, où là, on était dans le bureau du juge et la porte était ouverte sur un couloir désert où il n'y avait absolument personne. Effectivement, on a gardé le principe de la publicité du débat parce que tout simplement, le client disait « Moi, je ne vois pas pourquoi, j'ai rien à cacher et je ne vois pas pourquoi on fermerait la porte. » Bon, très bien. Je veux dire, il faut laisser cette possibilité-là. Je crois qu'il faut savoir que le principe, c'est l'audience publique, mais ce qu'il faut, c'est que quand on demande la chambre du conseil, elle soit... Moi, je n'ai pas vu de refus de chambre du conseil, très honnêtement, à aucun moment. Je pense aussi qu'on serait plus dans les principes, c'est-à-dire que si, par exemple, la personne qui est entendue souhaite que l'infirmier l'accompagne, pour moi, juridiquement, on n'est plus dans la chambre du conseil. Or, il est important que cette personne puisse être là si elle est de nature à rassurer la personne qui est entendue. De même, c'est assez exceptionnel, mais ça arrive, il y a des gens qui arrivent à contacter, ou on arrive, nous, à contacter certains membres de la famille ou des amis qui souhaitent assister à l'audience et dans l'intérêt de la personne qui est présentée devant le juge des libertés. Ces personnes-là ne pourraient pas assister si l'audience est en chambre du conseil. Donc, je pense qu'il faut rester sur ce principe. Alors, troisième point pour moi fondamental, il n'y a pas de contrôle effectif s'il n'y a pas d'information sur les droits. Monsieur Delarue, vous l'avez très bien dit, information sur les droits à l'entrée et information sur les droits avant l'audience. La rencontre avec le juge se passe bien si la personne est informée de l'audience, tout d'abord, et ne le découvre pas le matin même, si elle est informée de ce qui va se passer, si elle est informée de pourquoi elle est privée de liberté, et si elle est informée du sens de cette mesure. Hein. La peur naît de l'ignorance. Et moi, j'ai quand même une préoccupation, parce que là-dessus, cette information est donnée de manière très inégale, selon les territoires et selon les établissements. Et il y a aussi la question de savoir par qui est-elle donnée? Ça, c'est une question qui m'a été renvoyée à chaque fois que je suis intervenue en région avec, où il y avait des représentants des hôpitaux qui étaient là. Qui doit donner cette information, l'information sur les droits et l'information sur l'audience qui va se passer? Il faut que ce soit quelqu'un, ça c'est sûr. Est-ce que c'est vraiment le rôle du médecin qui, lui, est dans la position de demandeur au maintien, puisqu'il va rédiger un certificat disant que lui, il estime que l'hospitalisation complète doit perdurer? Est-ce que c'est lui qui va être le plus objectif pour expliquer à la personne qu'elle va aller voir un juge et que ce juge pourra décider qu'elle reste à l'hôpital ou qu'elle en sort? Voilà, moi j'ai un problème d'objectivité, j'ai un problème aussi de cohérence pour le médecin, j'ai un problème pour le patient qui est dans une relation particulière avec le médecin et par rapport au fait à la possibilité qu'il ait aussi le droit d'avoir une information autre. Voilà, c'est une question pratique que je pose qui me paraît importante. Alors, une défense effective, c'est aussi un accès au dossier qui soit correct et complet. Juste une petite observation sur la demande du tiers. Je sais que ça fait beaucoup débat chez vous. Dans notre pratique, avec, je dirais, depuis un an, quand même un certain nombre d'audiences et donc un certain nombre de personnes qui sont passées devant le juge, ça n'a jamais posé aucune difficulté. La plupart des gens savaient qui était le tiers à l'origine de la mesure, et quand ils ne savaient pas et qu'ils souhaitaient le savoir, ça n'a jamais entraîné de réaction immédiate ou différée particulière, et ça a été débattu en général assez calmement, et ça rassure. On a vu beaucoup de réactions où les gens étaient en fait rassurés d'avoir l'information. C'est une expérience que je livre là, mais jusqu'à présent, moi, je n'ai pas du tout entendu de remontée de confrères ayant des difficultés là-dessus. Le fait d'avoir l'information rassure. Elle est contestée, elle est, etc. Mais elle rassure. Alors, les certificats, je ne rentre pas dans le débat sur le nombre de certificats. Je dirais que l'important, c'est qu'ils soient correctement motivés et que le juge puisse, comme la défense, je veux dire, et comme l'intéressé, comprendre pourquoi le maintien coule de source, pourquoi il est nécessaire. Et je crois qu'on peut écrire les choses simplement et on peut les écrire de manière lisible et compréhensible par tout le monde et qu'à ce moment-là, de fait, la décision de maintien ne pose aucune difficulté ou le débat peut s'engager parce qu'effectivement, il y a débat sur la chose. J'insiste sur une seule... Bon, ensuite, il y a la question de l'accès à l'avocat. Ça, c'est aussi la question de notre formation d'avocat, hein, parce que c'est, je jette pas les pierres seulement à gauche et à droite, je veux dire, je nous la jette aussi. Il y a un travail énorme à faire pour que, dans certaines régions notamment, il y ait une véritable défense qui soit formée et qui soit présente, et qui puisse faire son travail, et qui puisse communiquer aussi avec l'intéressé à l'hôpital. Bon, moi, je trouve que la communication va en s'améliorant de mois en mois, et qu'il n'y a vraiment pas du tout de difficulté pour communiquer avant l'audience, il y a plus de difficultés pour communiquer après l'audience. Par contre, il y a des problèmes matériels énormes de timbre, d'enveloppe pour une communication écrite. Là, ça reste extrêmement compliqué, de délais d'acheminement du courrier, de choses de ce type qui, avec les délais d'audience, sont assez incompatibles. Alors, j'insisterai sur un dernier point qui est l'accès aux voies de recours. C'est difficile que les personnes puissent avoir une information réelle sur ces voies de recours, enfin, sur la possibilité de faire appel de la décision du juge des libertés, parce qu'il est très difficile d'arriver à communiquer avec elles une fois que la décision a été prise. Donc en général, l'avocat explique à la fin de l'audience le sens de la décision, le pourquoi du comment et la possibilité de faire appel. Mais après, la personne se retrouve seule dans le service. Si elle veut faire appel, il faut faire un écrit. Il faut que l'écrit soit motivé, c'est une des conditions de la loi, sinon il est rejeté. Donc, question de moyens, de droits, question de moyens intellectuels, affaiblissement avec les médicaments, notion du temps. Il y a un délai de 10 jours qui est extrêmement court. Il faut que la décision soit jointe à la déclaration d'appel. Donc, ce sont des choses qui sont difficiles d'accès pour quelqu'un qui est tout seul. Et contacter un avocat dans les 10 jours, c'est très compliqué. Par téléphone, c'est pas facile pour eux d'avoir accès au téléphone, et par écrit, à ce que je viens de dire, les problèmes matériels et les délais d'acheminement du courrier. Donc, c'est pas que je souhaite qu'il y ait plus d'appels, ce que je souhaite, c'est que les personnes qui veulent faire appel puissent plus le faire, et je suis pas persuadée, les pourcentages qui nous sont donnés là le démontrent, que ce soit un véritable recours effectif. Je terminerai juste en faisant une petite réflexion sur la décision du Conseil constitutionnel qui a été rendue et sur quelque chose qui me préoccupe, d'ailleurs, ainsi vous l'avez soulevé, hein, monsieur Delarue, c'est la question des programmes de soins et la question des soins sans consentement en ambulatoire. bon, qui sont effectivement définis avec beaucoup de flou, au contraire de l'hospitalisation complète qui est très encadrée. Et surtout, moi, cette décision du Conseil constitutionnel me pose un problème de fond, c'est-à-dire qu'elle dit très clairement que ces soins ne peuvent pas s'exercer sous contrainte. Or, les personnes qui en font l'objet sont des personnes qui font l'objet de décisions, que ce soit celle de l'hôpital ou celle du préfet, qui sont des décisions ordonnant des soins sous contrainte. Donc comment est-ce qu'on envisage que le soin soit libre alors que la personne est sous contrainte? Enfin, là, moi, concrètement, je ne vois pas. Et ça reste une question majeure qui, pour moi, n'a pas été réglée par le Conseil constitutionnel et qui pose des problèmes d'atteinte à la liberté, évident, mais aussi de droits assez conséquents.
Oui. Voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'effectivement, tout le monde partage ce dernier point de vue. Vos deux interventions ont permis d'alimenter le débat. Donc, on a encore la place pour deux questions dans la salle. Alors, peut-être